Nice, août 2018, 14h45. Le déjeuner se termine à peine sur le balcon face mer du 169 Promenade des Anglais. Depuis le troisième et dernier étage, dans l'encadrure du balcon, orné de somptueuses colonnes ocre typiques de l'architecture belle époque, j'observe, les paupières à demi closes, l'orchestration gracieuse du paysage de l'été. Encore enchantée par les arômes de vin fruité mélangés à l'amertume velours du petit café noir et de sa tuile citron acidulée pris pour le dessert, mon regard se perd, balaie langoureusement l'arc de cercle de la côte niçoise. Je la regarde s'animer par petites touches de couleurs éparses, les palmiers verts et peints au devant qui jonchent la promenade couleur terre battue, les bateaux au loin, aux coques blanches éblouissantes, arpentant quasi immobile l'horizon bleu ciel qui se dilue comme des gouttelettes d'huile scintillant à la surface de la mer. Et, à la faveur des discrètes, mes salvatrices fraîches percées du mistral qui, en caressant la peau, exhale des notes de noisettes grillées mélangées aux fragrances de la crème solaire. Aux heures douces de l'après-midi, je m'abandonne. Dans ma tête, les bruits de l'été s'empilent, se fondent les uns dans les autres, composant une partition rassurante, maintes fois entendue, chaque juillet, chaque août. Les mêmes odeurs, les mêmes saveurs et les mêmes bruits, les mêmes entrelacs. Chaque été se transforme en ritournelle des souvenirs. Chaque été rappelle inlassablement les précédents, les réveille, les remonte un à un jusqu'aux tendresses les plus lointaines, jusqu'aux sentiments les plus heureux. L'été rappelle les mois des premières amours et des baisers éperdus. L'été ressuscite l'enfance, l'adolescence et leurs désirs révolus. Chaque été exhume le bel âge et ses rêves remplis de premières fois. Chaque été se teinte de la nostalgie de nos anciens émois dont les mémoires tenaces, remplissent, s'immiscent dans chaque détail du présent, le condamnant alors inéluctablement à la malédiction de sa futilité soudaine. Tragique futilité du présent, berceau du sentiment qu'aujourd'hui ne tire sa poésie que des instants qui l'ont précédé. Alors, au gré des détails du paysage et de la chaleur de l'air, s'épanchent les rêves que nous n'avons pas poursuivis, se confient les bonheurs qui nous ont échappés, se relient l'histoire de nos familles transformées, se regrettent les histoires d'amour secrètes ou inavouées, chuchotent autant d'instants que nous ne vivrons plus. Et de la contemplation d'une après-midi d'été éclot la mélancolie. Alors, prise par un sursaut, je réouvre les yeux. Je reviens à moi et je regarde les gens passer. Ces gens, ces autres qui vont et viennent, les beaux, les jeunes, ceux qui sont en famille, les touristes, les couples. Et les promeneurs solitaires aussi. La danse de leurs corps, ces corps qui ne sont pas les miens, me fascine. Je les regarde bouger et j'imagine leurs pensées, leur raison ou leur bonheur d'être là marchant sur la promenade. Je me demande qui ils rejoignent, qui les attend. J'imagine leurs succès et leurs échecs. Et puis soudain, tous ces destins là, en marche, juste sous mes yeux, m'apparaissent plus beaux, plus grands, plus nécessaire que le mien. Je prends conscience de toutes ces histoires, de toutes ces vies qui ne sont pas les miennes et auxquelles je dois apprendre à renoncer. Renoncer à tout ce qu'ils vivent de plus que moi, de mieux que moi. Alors je me compare. J'envie tout ce dont leur vie a l'air et je pense à tout ce que la mienne n'est pas. Ce jour-là, à Nice, j'observe avec mélancolie que ma vie me prive de toutes les autres. Aujourd'hui, nous allons parler mélancolie, contemplation, tristesse peut-être un petit peu, mais pas la tristesse qui rend triste. celle qui murmure aux oreilles de la joie et qui s'en émeut, celle qui s'attendrit à la lecture d'un roman ou devant un paysage pluvieux. Aujourd'hui, nous allons parler de romantisme. Parce que le romantisme, c'est le mode de vie des personnalités hyper. Et si c'est lui qui est au cœur des plus grandes joies et des plus étincelants émois amoureux, c'est aussi lui, parfois, qui nous met en échec, qui nous bloque, qui nous fait hésiter en amour. C'est le romantisme, souvent, qui nous pousse à reconsidérer les choses à la baisse et qui est parfois coupable de nous donner la sensation de ne jamais être au bout de ce que nous voudrions vivre. Bref, le romantisme, c'est tout un monde, et quand on est romantique, c'est souvent pour le meilleur et pour le pire. Alors, soyez les bienvenus dans le 4e épisode des Amours HP, et intéressons-nous au romantisme. Et si nous évoquons ce mot, ça n'est pas en qualité d'adjectif, mais au sens le plus strict du terme que nous allons l'utiliser. Le romantisme, en effet, ce n'est pas seulement le fait d'agir de manière romantique, à savoir courtoise et chevaleresque, c'est aussi, et c'est ça qui nous intéresse, un mouvement artistique majeur qui a débuté au XVIIIe siècle et qui consiste, dans les grandes lignes, à privilégier une nouvelle vision du monde, une nouvelle esthétique de l'existence dans laquelle l'art, sous toutes ses formes, la littérature, la poésie, la peinture, la musique, le théâtre, etc., devient l'expression, la représentation d'un monde exclusivement subjectif et où les sentiments et les émotions sont exaltés. Et parmi les sujets de prédilection du romantisme, on retrouve en première place l'amour, la passion, les affres du désir évidemment, mais aussi la nostalgie du passé, la justice, la nature, la religion, Dieu, la mythologie, la spiritualité à plus grande échelle, la philosophie, etc. Bref, tous ces sujets finalement qui sont liés à questionner, à ressentir les ficelles invisibles des lois qui régissent les liens affectifs entre les hommes. Ces ficelles qui les lient aussi à leur environnement, à leurs propres conditions et à leur destinée. Donc être romantique et être hypersensible, aujourd'hui c'est presque un pléonasme. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se sont reconnus dans la définition qu'on donne à ce courant, le courant romantisme. En tout cas, être romantique, ça veut dire en premier lieu qu'on a une propension naturelle à l'expression de ses sentiments et de sa subjectivité, mais avec une particularité qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le concept, l'idée de mélancolie et de sublime, de sublimité. Le sublime, c'est cette disposition à transcender la forme et à voir le beau, en tout cas à le ressentir, à en être pénétré à travers ce qui est malheureux, laid, immonde parfois ou souffrant. Et c'est un point important parce que, au-delà du sublime au sens esthétique du terme, ce prisme-là de vision du monde qui est inhérent à tous les artistes, et à tous les hypersensibles donc, va engendrer un rapport au monde particulier, un rapport au monde naturellement, du coup, un peu mélodramatique, mélancolique, dans lequel la souffrance a non seulement une place, et va être tolérée, parfois recherchée, et même pourra être source de plaisir, un plaisir quasi esthétique. C'est un prisme par lequel tout est sublimé. Mais cette souffrance, en plus d'un point de vue bassement comportemental et cognitif, va engendrer des postures, des croyances et des schémas, des systèmes amoureux pas toujours gagnants. Alors dans la petite fiction que je vous ai proposée en introduction, on comprend que dans la vision du monde romantique, ce qui est perçu du monde, des autres et de soi-même, passe en premier lieu par le manque. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui vit dans un monde en manque. Et on va le voir, ce manque se déplace tout le temps, en tout cas jusqu'à ce qu'on s'en occupe. D'ailleurs, petite digression, la manière dont un hypersensible tente de se définir quand on lui pose la question est finalement assez en posture externe. C'est-à-dire qu'il est très rare que l'on puisse dire de manière spontanée qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime. Parce que finalement, ouvrez les guillemets, ça dépend. D'abord, ça dépend de qui demande, ça dépend de ce qu'on fera de la réponse, ça dépend pourquoi on pose la question, bref, toutes les réponses qui concernent le soi dépendent. Elles dépendent toujours, donc de X ou Y paramètres, parce qu'il y a un fort besoin, voire une nécessité d'être acceptable pour les autres. Et si on est acceptable pour les autres, alors on devient acceptable pour soi-même. Et finalement, quand on est hypersensible, le besoin narcissique, et narcissique ce n'est pas un gros mot, de correspondre à ce qu'on attend de lui, est le biais qu'il privilégie pour se sentir légitime ou pour s'octroyer à lui-même une quelconque valeur. Alors tant qu'il y a un partenaire, un patron, un parent ou quelqu'un d'autre pour poser un regard qui fera référence, un regard qui nous permettra de nous positionner et d'y répondre, on réussira à s'adapter et à construire une forme d'identité. Et j'ai fait ici cette petite digression parce que, évidemment, cette facette-là d'être toujours en rapport, d'être toujours en comparaison, d'être toujours en « ça dépend de l'autre » finalement, eh bien, c'est ce qui va faire le terreau et le berceau des relations toxiques. Si je suis uniquement pour l'autre, alors cet autre a le pouvoir sur moi et je suis sous emprise. Voilà, mais ça c'est un autre sujet et on y reviendra probablement dans un autre podcast ou peut-être dans une autre vidéo. Et puis, puisque les interactions sont finalement relativement complexes pour une personnalité HP, parce qu'il y a un grand nombre de paramètres qui lui échappent, on en avait parlé dans l'épisode 1, alors un hypersensible, un romantique, va naturellement et facilement se retrouver coincé dans un nini. Et on tombe naturellement dans une évaluation par défaut. On se représente soi et on se représente le monde à défaut de ce que l'on est. Hein, quand on est HP, on a en réalité une propension naturelle à voir les choses en négatif. Et quand je dis négatif, je ne parle pas de défaitisme ou de pessimisme, quoique, parce que ce sont les comportements du coup qui vont en émerger, mais je parle plutôt de négatif comme le négatif du photographe, le négatif de la pellicule qui révèle les couleurs à l'inverse, qui rend visible l'autre face, la face qui n'existe pas, mais qui, quand on est HP, paradoxalement, fait référence. C'est tout ce qui n'existe pas de soi ou de sa vie qui devient la référence. Ce sur quoi on va poser son attention, ce sur quoi on construit son appréhension des choses et de soi-même. C'est-à-dire, pour essayer d'être un peu plus clair, qu'on ne se définit pas par ce qu'on est, puisqu'on ne sait pas trop, que ça dépend, mais en revanche, on sait très bien ce qu'on n'est pas. Concernant la vie, c'est la même chose. On a du mal à se réjouir totalement de ce qu'on vit, en revanche, on sent bien ce qu'on ne vit pas. On accorde peu d'importance à ce qu'on a, mais on ressent qu'on manque cruellement de ce qu'on n'a pas, etc., etc. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Il y a évidemment dans ce prisme d'appréhension du monde une dimension d'hyper-lucidité de la personnalité hypersensible qui a une conscience accrue d'abord de l'aspect fini des choses. Cette conscience accrue de l'aspect fini des choses, c'est ça qui induit une forme de tristesse, de mélancolie en toile de fond, dirons-nous. Les choses s'arrêtent. Les choses ont une fin, on en a conscience. Et ça, la fin des choses, l'abandon des événements, l'abandon, la fin, c'est très difficile pour un HP. C'est comme une mort à chaque fois. Mais à côté de ça, il y a aussi une vision dialectique des choses. Une vision dialectique au sens philosophie du terme, à savoir que quelqu'un d'hypersensible a conscience du rapport manichéen qui inclut et exclut mutuellement les deux faces d'un objet. Exemple, l'idée du noir inclut
et exclut l'idée du blanc. Le jour inclut et exclut l'idée de nuit. La mort se définit en incluant et en excluant l'idée de vie, etc. Et par extension, quand on est hypersensible, et nous en arrivons à notre posture romantique, pétrie de mélancolie et de sublimité, l'idée du noir nous amène à nous demander si ce n'est pas mieux en blanc. Le jour nous fait regretter tous les attributs de la nuit, et vice-versa. Une femme, je continue les exemples, quand elle est gentille, nous fait nous demander si on n'en préfère pas une plus piquante. Et puis surtout, on a besoin d'admirer quand on est HP, peut-être même plus que d'aimer, hein. On en reparlera peut-être à un autre moment. Et pour finir avec un dernier exemple, on reste avec un homme violent par espoir qu'il devienne doux. Une histoire passionnée nous désole parce qu'elle est intranquille. Mais une relation trop sécure nous ennuie et nous rappelle de temps à autre à reconsidérer notre célibat, etc., etc. Ces exemples sont à couper au couteau, mais l'idée sous-jacente, c'est que lorsqu'on est disposé à appréhender le monde par le prisme dialectique et qu'on fait exister ce qui n'est pas, on vit en permanence avec le sentiment d'être perdant. Ou avec le sentiment d'être dans la salle d'attente, de vivre quelque chose qui n'est pas assez, de vivre quelque chose de terne, de ne pas vivre finalement la meilleure version de la réalité et de ne pas être complet. Et toute cette place, parfois obsédante, douloureuse, qui est laissée à tout ce qui n'est pas, à tout ce qu'on n'a pas, à tout ce qu'on ne vit pas, peut amener dans des cas extrêmes, hein, si on l'applique à plusieurs aspects de la vie, à de grandes détresses, voire à des dépressions. Surtout si c'est une vision qu'on s'applique à soi-même, ce qui est souvent le cas, hein, pour ceux qui se reconnaîtront avec leur manque de confiance ou avec le syndrome de l'imposteur, on se vit à travers les regrets du « tout ce que je ne suis pas » ou du regret du « je suis autrement que ce que je pourrais être ». Et cette posture du regret, cette posture du regret de ce qui n'est pas, à la longue, abîme beaucoup, tragiquement, l'estime de soi. Et donc, abîme aussi ce qu'on va mettre en place dans sa vie. Si je m'éprouve en permanence en comparaison avec ce que je ne suis pas, je suis donc en permanence insuffisant. Si je compare ma vie à ce qu'elle n'est pas, alors elle me semble dépourvue de sens. Et de cela naît tout un dialogue interne de dénigrement de soi qui va en réalité ne faire que créer un système dans lequel on s'enfonce et qui abîme le rapport amoureux. Parce que lorsqu'on appréhende le monde de cette manière, nous sommes de fait en permanence en posture de victime. Et donc les autres, le monde, l'existence, Dieu parfois deviennent structurellement des bourreaux. Et on développe, parfois ça arrive dans les cas les plus extrêmes, une forme de sentiment de persécution, de paranoïa. Et on s'éprouve dans la difficulté du monde. Et on se définit par sa propre souffrance, ses manques. Et on se raconte dans la tragédie de l'altérité, la cruauté du hasard et pourquoi pas même à travers l'obstination d'une prétendue fatalité. Mais surtout on se bat, on lutte et on fatigue. Car toute notre attention est fixée sur ce qui n'est pas. Et à conséquence de ça, c'est que l'autre, ou pire, soi-même, est toujours coupable. Et évidemment, il devient extrêmement difficile de trouver une forme de bonheur pérenne dans ces conditions. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « voir la bouteille à moitié vide ». Alors c'est une vision assez naturelle pour les hypersensibles, car ils ont cette conscience, on l'a dit, qu'ils ne vivent qu'une partie de ce qui est vivable. Mais au fond, il y a-t-il autre chose à vivre? Y a-t-il quelqu'un d'autre à être que soi-même? Beaucoup d'hypersensibles deviennent, sont donc par nature hein, des artistes pour vivre, pour interpréter, pour écrire, pour peindre, pour imaginer, pour jouer, pour composer ces autres histoires et ces autres aspects du monde, ces mille et une vies, ces mille et une émotions qu'ils ne vivent pas ou ne vivent plus. Et c'est aussi ce qu'on fait en cabinet d'hypnose notamment. Un jour, j'ai lu l'interview d'un artiste qui expliquait qu'il ne pouvait pas composer lorsqu'il était heureux et qu'il aimait la tristesse parce qu'elle l'inspirait. Et c'est assez juste, parce que oui, la tristesse, la nostalgie, la mélancolie, c'est l'accès. C'est l'ouverture à tout ce qui n'est plus. C'est l'ouverture à tout ce qui n'est pas. C'est l'ouverture à tout le reste, alors que le bonheur, lui, il semble se contenter. Même l'euphorie, elle, elle peut s'arrêter, mais quelle tragédie! Alors que la tristesse, le manque, la mélancolie, elles ont le pouvoir de convoquer tout le reste. Ce qu'on ne vit pas, ce qu'on ne vit plus, ce qui est parti, ce qui nous manque. La tristesse, la mélancolie et le manque, ils ont un pouvoir de faire exister ce qui n'existe pas. Et c'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles y sont attachés à leur tristesse et à leur complainte, parce que c'est la porte d'entrée à tout, parce que c'est l'accès à l'infini dans notre vie finie. Et si ça, si cette dimension, c'est une aubaine dans la création, parce que tout cela rend volubile, esthète, poète, que tout ça remplit, que tout ça compense, que tout ça multiplie les existences, et bien dans la vie, dans la vraie vie, celle qu'il y a à vivre, et pas celle qu'il y a à imaginer, celle qui est une matière disponible, celle qui est vivable maintenant, eh bien, cet aspect de la personnalité peut devenir une camisole, un sacerdoce même. Mais bien heureusement, la dialectique va dans les deux sens. Évidemment, ça n'est pas une fatalité, parce que si les hypersensibles, les romantiques et les artistes se définissent par une existence en manque, alors ils sont en même temps pleins de désirs, pleins d'envie, pleins d'espoir, d'idéal et de grandes causes à poursuivre. On retrouve hein, en interne ce duo optimisme-pessimisme, d'ailleurs qui trouble ceux qui le vivent parce qu'ils sentent bien qu'il y a plusieurs parts en eux. Il y a autant de parts d'ombre que de lumière, il y a autant de manque que d'envie. Il y a autant de désespoir que de bonheur à conquérir. Alors ces hypersensibles, ces romantiques, ils y croient toujours. Ils sont tenaces, ils sont résilients, ce sont des forces de la nature admirables. Et ils sont forts, oui, forts, et je le dis souvent, parce qu'il en faut de la force pour vivre avec autant de fragilité. Il en faut de la force pour cohabiter avec autant de regrets. Mais alors, même lorsque le bonheur est là, même lorsque le bonheur est atteint, même lorsque le bonheur est proposé, eh bien au vu de ce prisme, de cette vision, entre guillemets en négatif, nous l'avons expliqué, eh bien, on ne peut pas, on ne réussit pas, dans un premier temps, parce que ça va changer, on ne réussit pas à se satisfaire. On reste dans une demi-teinte. Et on commence à relativiser, à comparer. Et c'est le temps des « oui mais » comme une soif jamais étanchée. Alors, quelle est la solution? Parce qu'il y en a, évidemment. Eh bien, la solution, elle tourne autour de trois mots. Choisir, l'inverse de subir. Décider, l'inverse de subir. Investir, l'inverse de subir aussi. Et se responsabiliser, là aussi, inverse de subir. Alors je m'explique et je développe. Choisir, c'est choisir ce qu'on est, ce qu'on vit. Parce que le reste, évidemment, le reste n'existe pas. Alors, je vais développer. Décider, c'est décider de cesser de croire qu'on a le choix de vivre une autre vie que la sienne. De cesser de croire qu'on pourrait être quelqu'un d'autre que qui on est. Investir, c'est-à-dire faire quelque chose de ça, de cette matière disponible. S'y engager, la considérer, la prendre dans les mains, la pétrir, la transformer, la gérer, l'organiser, la modeler, reprendre prise, au lieu de toujours vouloir lâcher prise, reprendre prise et faire des choix en rapport avec ça et pas en rapport avec ce qui n'existe pas. Et se responsabiliser, c'est-à-dire prendre soin de ce qu'on vit, prendre soin de qui on est, partir à sa propre rencontre, faire de soi le premier rôle de sa vie, mais aussi et surtout le gardien de qui on est et de ce qu'on veut vivre. Qui d'autre le fera à notre place ? Personne. Nous ne sommes plus des enfants, même si quand on est hypersensible, on continue à fonctionner un peu pareil. Cessez d'être victime du sort et cessez d'attendre que la vie ou les autres nous entendent et veulent bien nous aimer, nous rendre heureux et prendre en charge la justice qu'on se doit. Alors bien entendu, ce n'est pas simple et évidemment on n'appuie pas sur un bouton parce que comme on le dit, choisir, c'est renoncer. Et pour un HP, renoncer, ça n'est pas dans son programme de base. Renoncer au possible, renoncer aux hypothèses, renoncer au reste de ce qu'il y aurait à vivre, c'est se priver. C'est ça qu'on croit. C'est que si on choisit, on renonce et qu'on se prive. Et puisque la sensation de manque et de carence est au démarrage du fonctionnement HP, alors se priver, ça semble une hérésie, un rétrécissement supplémentaire de la vie, une douleur encore plus grande. C'est pour ça, entre autres, même s'il y a d'autres raisons, hein, on en a déjà évoqué certaines dans les épisodes précédents, mais c'est pour ça que les HP se perdent souvent dans des indécisions, se perdent en immobilisme, en procrastination ou à l'inverse, en éparpillement, en évitement, car il est trop douloureux de renoncer. Mais pourtant, choisir, décider, investir, se responsabiliser, hein, ces quatre mots, c'est se rencontrer et rencontrer son existence, rencontrer les éléments qui jalonnent notre vie, qui la construisent, c'est honorer, c'est s'engager, c'est bâtir, c'est s'amplifier, c'est devenir maître, c'est diriger, c'est vivre, c'est se nourrir, c'est se remplir, c'est exister en somme et c'est s'épanouir, passer son temps à regretter les possibilités et ne pas investir ce qui est disponible. Attendre que les choses changent, regretter les hier, se plaindre de ne pas avoir le chemin d'un autre revient à ne rien vivre du tout. Alors que c'est cela même qui fait mal et c'est cela même dont on se plaint. Et dans les histoires d'amour, puisqu'on y vient, puisque c'est de ça dont on a envie de parler, ce romantisme excessif a une influence. En poussant certains à vivre des histoires dans lesquelles ils sont en manque, mais avec l'illusion qu'un demain sera meilleur, ou alors avec l'idée que l'autre qui les a quittés reviendra, ou que celui avec qui ils sont malheureux changera, que cet autre comprendra. Ou alors, s'ils sont mécontents de la vie qu'ils ont parce qu'ils la subissent au lieu de la choisir et de s'y investir et d'en prendre la responsabilité, ils vont se mettre à la dénigrer, à mépriser l'autre, leur conjoint, leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Et de là naît la colère de ne pas vivre autre chose, et de là peut même naître de la violence, de ne plus supporter de vivre ce qu'on ne veut pas vivre. Et ces existences-là, quel que soit le contexte, elles sont rudes, parce qu'elles résistent. Alors il n'est pas question ici d'ôter l'espoir à l'existence, hein, pas du tout. Mais il est urgent, je crois, de choisir ce qui est pour pouvoir préparer la suite. Je crois qu'il est nécessaire de choisir ce qui est pour en jouir s'il nous rend heureux et pour l'arrêter s'il nous fait souffrir. Alors bien entendu, évidemment, cette lecture de la vie, cette lecture romantique, elle ne pourra pas disparaître, pas tout d'un coup, c'est un trait de personnalité, mais elle pourra, à un moment, se contenter, rester simplement une part de soi. C'est la part de soi créative, la part de soi rêveuse, la part de soi peut-être même un peu divine, parce que ce n'est quand même pas n'importe qui sait faire exister ce qui n'existe pas. Ce n'est pas n'importe qui vit d'invisible. Ce n'est pas n'importe qui interagit avec tous les autres possibles. Tout ça, c'est beau. Mais il faudra faire la part à autre chose, à ce que moi j'appelle le constat de réalité, la matière disponible de l'existence qui doit remporter notre adhésion, et nous pourrons alors déterminer si nous sommes heureux ou non, mais au moins ce qui permettra l'évaluation sera le réel. Alors, certains y parviennent avec l'apprentissage, avec l'âge, c'est ça qu'on va appeler la maturité ou la sagesse, mais entamer un travail sur soi régule, apaise, range les choses au bon endroit, délie les mécanismes qui empêchent de vivre, alors certains pourront donc façonner cette nouvelle posture, cette posture du choix, cette posture de la décision, cette posture de la responsabilité de vivre ce qui est à vivre. Eh bien, ça pourrait être façonné en thérapie. Et ça marche. Ça marche. Mais la seule issue à cette sensation de passer sa vie à regretter qu'elle ne soit pas autrement, c'est d'accepter. Accepter parce qu'on n'a pas le choix. Évidemment, quand on n'est pas heureux, il faut changer, bouger, modifier, ajouter, transformer, c'est ça la vie. Mais tout ça est possible. Le bonheur et la satisfaction ne sont possibles que si on utilise la glaise qui est disponible et pas celle qui n'est pas là. Vivre dans l'illusion de ce qu'on pourrait vivre, vivre dans le regret de ce qu'on ne vit pas, c'est ne pas vivre du tout. Et la vie est quand même rudement courte pour qu'on s'en prive. Le romantique, en chacun de nous, imagine, regrette, se répand et sublime sa tristesse en art, en beauté. Il révèle la jouissance de l'invisible, la fragilité de la force et la complexité des êtres. Mais le romantique doit apprendre à poser sa plume et ses émotions débordantes. Il doit apprendre à sécher ses larmes, ses souffles et ses trémolos et choisir sa propre vie s'il veut la vivre vraiment. Parce que c'est à force de regretter qu'on meurt avec des regrets. Alors oui, Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ce qui est, qui on est, ce qu'on vit, et s'en saisir à la place de s'en désespérer, de le nourrir comme on nourrit un enfant, et d'en tirer de la contemplation. Il n'y a pas d'autre choix que de ne plus réserver son syndrome de Stendhal qui nous mène aux larmes devant la beauté d'un papillon ou d'un paysage à ce qui est plus petit, présent, là. Le faire rentrer à l'intérieur, passer du macro dans lequel on se perd au microcosme de son existence et le posséder précieusement. Cultiver son jardin comme le demandait Voltaire. Regarder son enfant et lui sourire parce qu'il est là et qu'il en a besoin au lieu de le regarder en regrettant le départ de son père. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Alors, à défaut de vous aimer, acceptez-vous. Occupez-vous de vous, prenez-vous en charge, rencontrez-vous et apprenez ce qui vous fait du bien et tenez-le entre vos mains, battez-vous pour ça. Apprenez que tout est imaginable, que tout permet d'espérer, de rêver, mais que seul ce qui est disponible permet de vivre et d'avoir une place dans l'existence, la sienne et celle des autres. Apprenez à remplacer les « et si » par les « c'est comme ça ». Apprenez à avoir moins de choix. Apprenez que ce qui compte existe déjà et que l'ignorer fait grandir le vide, la faim et la soif. N'attendez plus que le passé renaisse, n'attendez plus qu'un ancien amour revienne, n'attendez plus que les choses changent dans 2, 3, 6 mois ou 1 an. Nourrissez-vous des affects du présent, choisissez de vous regarder dans les yeux de ceux qui sont là et alors les possibles s'ouvriront car il n'y a que le vent. Qui ne se pose jamais. Alors, amoureux hyper et amoureux de tous bords, réjouissez-vous, l'amour est partout.